Et c'est Myrane que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Myrane.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Je vous fais une petite place à côté de moi et je vous écoute.
Oui, donc je vais me présenter. Je m'appelle Myrane, j'ai 36 ans, donc je vis à Bertry en Belgique.
Ah, vous savez que j'ai un grand faible pour la Belgique et pour les Belges.
Mais tant mieux. Donc je suis aussi présidente de la LCA, c'est la Ligue contre l'Asiaphobie. Et nous luttons contre le racisme anti-asiatique.
Je vais répéter parce qu'on n'a pas très bien entendu, la Ligue contre l'Asiaphobie.
Asiaphobie, c'est
d'accord.
Ça. Donc le racisme anti-asiatique.
D'accord.
Donc nous essayons de faire exister, de conscientiser les gens qu'il existe. Et on cherche aussi à déconstruire des clichés que tout le monde connaît, afin de construire justement le mieux vivre ensemble.
Est-ce que c'est le Covid qui a relancé ce racisme anti-asiatique, vous pensez?
Pour moi, le racisme anti-asiatique a toujours existé depuis qu'il y a des immigrés asiatiques. Par contre, le Covid, justement, a montré une haine réelle envers la personne asiatique.
Moi, je dirais une bêtise réelle, surtout.
On l'a bien vu. Pardon ?
Je dirais une bêtise réelle, surtout. Parce que la haine est de la bêtise.
Oui, bien sûr, mais malheureusement, le fait est là, c'est qu'il y a une haine. D'abord une peur, ensuite une haine. Ouais. Donc, voilà.
Et donc, avant le Covid, vous avez souffert vous-même petite de ce racisme ?
Oui, ça a commencé dès l'enfance, en fait. J'aurais voulu justement vous faire part de mon témoignage, mais aussi de témoigner pour mes enfants, parce que j'ai deux enfants qui ont aussi malheureusement subi du racisme. Donc, je vais peut-être commencer par moi.
Oui.
Donc, moi, ça a commencé en maternelle, donc je devais avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et on a commencé avec des petites insultes, on m'a tiré les yeux, c'est Kim Jong-un, la sorcière, on faisait semblant de me parler chinois, des choses comme ça.
Et vous voyez, c'est vraiment à ce moment-là que la maîtresse doit intervenir, c'est là que les enseignants devraient être formés à ça.
Oui, en fait, le problème, c'est qu'on commence par des petites choses, et ces petites choses deviennent de plus en plus importantes, en fait.
Et puis, c'est très relatif, une petite chose pour quelqu'un peut être extrêmement douloureux pour la personne qui le vit. Hein.
Oui, parce que justement, je ne comprenais pas ce rejet.
Bah, évidemment.
Moi, je ne me voyais pas en tant qu'asiatique. J'ai été adoptée par une famille belge. Mm-hmm. Donc, j'ai été confrontée vraiment à un rejet de moi-même, de mes origines, de ma couleur de peau, de tout ça. Je me suis sentie différente, mais d'une façon où on montre la différence comme étant quelque chose de mal, en fait.
Est-ce que vos parents vous parlaient de ça et essayaient de vous expliquer malheureusement que vous allez être confronté à ça?
Non, malheureusement non.
Ils n'avaient pas conscience de ça?
Quand j'ai commencé à être confrontée à ces problèmes, j'en ai parlé aux institutrices,
oui,
qui n'ont malheureusement rien fait. J'en ai parlé à ma mère qui n'a rien fait. Parce que je pense qu'en réalité, ce racisme n'existait pas. Ce n'était pas du racisme. Donc ça s'est arrêté là, donc en gros j'ai essayé de me défendre toute seule, mais ça n'a pas marché. Hein. J'ai voulu me défendre de façon physique, et évidemment c'est moi qui ai été punie.
Oui, quand on est petit, on a besoin que les adultes soient là pour nous protéger, ça n'a pas été le cas, quoi.
Non, ça n'a pas été le cas, malheureusement.
Ouais.
Donc voilà. Je me suis vraiment sentie très, très, très mal dans ma peau, je n'aimais pas ma couleur de peau. Je n'aimais pas mon visage, je n'aimais pas mes yeux. Et en fait, ça m'a cassé en fait, la confiance et l'estime que j'avais déjà de moi-même, déjà toute petite en fait.
Bah déjà, quand on est un enfant adopté, il y a forcément une blessure de rejet qui est à l'intérieur de soi. Même si on a la chance d'avoir des parents adoptifs formidables, il y a forcément cette blessure de rejet. Donc là, ça a réactivé déjà cette blessure de rejet dès l'âge de 3 ans, quoi.
Oui, je ne sais plus très bien quel âge j'avais.
Peu importe l'âge, ça a réactivé quelque chose qui faisait mal déjà, quoi.
Oui, parce que l'abandon, effectivement, je l'ai vécu dans le sens où si mes parents biologiques m'ont abandonné, c'est parce que j'avais des défauts, que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait aimer.
Non, mais ça, vous savez que c'est faux. Voilà, ça, c'est ce qu'on se raconte quand on est petit, parce qu'on n'a pas encore l'intellect suffisant pour expliquer les choses. Malheureusement, cette blessure-là, c'est comme ça que vous l'avez, qu'elle s'est imprégnée en vous. Même si j'imagine qu'une fois adulte, vous avez compris que si vos géniteurs, votre génitrice vous a abandonné, c'est qu'elle avait probablement des raisons de le faire et qu'elle était incapable de vous garder.
Oui, exactement, oui.
Mais il n'empêche que la blessure, vous avez grandi avec, quoi.
Voilà, j'ai grandi avec jusque très tard, en fait, jusqu'à ce que je devienne maman.
Ouais. Miran, je vous propose qu'on marque une très courte pause.
Oui.
Une petite pause de publicité, je vous récupère tout de suite, s'il vous plaît.
D'accord, ça va.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Miran, je vous retrouve. Donc, vous, juste avant la pause, vous étiez en train de me dire que donc toute petite, vous avez été adoptée et que toute petite, à la maternelle, vous avez déjà fait les frais d'un racisme qui n'a pas été entendu ni compris ni par la maîtresse ni par vos parents et que vous êtes trouvée seule pour vous défendre, finalement.
Oui, c'est ça.
Comment vous avez réussi à grandir dans cette ambiance-là?
J'ai continué. En fait, le fait de subir ce racisme, en fait, comme il casse les cimes de soi... En fait, on est conditionné à devenir une personne adulte qui subit en silence. Donc, en gros, j'ai subi en silence.
Alors, il y a deux options. C'est soit l'attaque, c'est-à-dire l'agressivité, soit l'inhibition, effectivement, se mettre en retrait. Je crois que vous êtes plutôt mise en retrait, alors.
Voilà, je me suis mise en retrait. Ouais. Enfin, malheureusement, je pense que peu d'Asiatiques attaquent.
Oui.
J'ai pu récolter certains témoignages de personnes asiatiques et effectivement, elles subissent beaucoup en silence.
C'est pas dans votre culture, l'agressivité?
Voilà, je ne sais pas. Enfin, est-ce que c'est en nous? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas très bien d'où ça vient.
Donc, vous avez essayé de vous faire le plus petit possible, de vous effacer?
Voilà, oui. Enfin, je me sentais mal à l'aise, je voulais être dans mon coin parce que les insultes, évidemment, en grandissant, ont continué. Il y a des choses qui se sont rajoutées, comme le fait que j'avais un visage plat. On s'est beaucoup moqué de ça, enfin de ma couleur de peau. Enfin, je m'appelais Jaunisse. Hein. Bien sûr, Bruce Lee, le fameux Bruce Lee, avec les cris qu'ils faisaient quand ils se battaient dans les films.
La cruauté des enfants quand ils sont mal éduqués, c'est terrifiant.
Mais oui, d'un côté, oui, et d'un autre, le corps enseignant aurait dû réagir.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pareil, il devrait, dès le premier dérapage, il devrait réagir et surtout expliquer ce que les parents ne font pas. À ce moment-là, c'est à la maîtresse de le faire. Expliquer les différences, expliquer le monde, expliquer que nous sommes chacun différents avec des valeurs qui sont les mêmes, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est la bêtise et c'est la méconnaissance qui crée le racisme.
Oui, en partie,
j'ai peur de ce que je ne connais pas. Et comme j'ai peur et qu'on ne m'explique pas, je deviens agressif.
Je rejette. C'est vraiment ça. Oui.
Effectivement, c'est vraiment dommage que les adultes ne soient pas intervenus à temps. Comment ça s'est passé pour vous à l'adolescence, au moment des premières rencontres avec les garçons, par exemple?
J'étais assez précoce. Donc, vers l'âge de 12 ans, j'étais déjà formée. Et là, je suis passée à l'hypersexualisation. Hein. Donc, j'ai eu un petit surnom. On m'a appelée Poufias de l'Athénée. Enfin, l'Athénée, c'est là où j'étudiais. On m'a aussi appelée Katsumi, évidemment. Et là, les hommes de l'âge de mon père ont commencé à me regarder. Ils avaient une quarantaine d'années. Et, ils me regardaient avec un air que je ne connaissais pas. Et je ressentais en moi un sentiment de dégoût. Enfin, je trouvais ça bizarre.
Bah, c'est malsain, évidemment.
Et on a commencé très vite à me faire des avances. Donc, ces hommes âgés venaient vers moi. Ils me parlaient déjà à la troisième personne du singulier, comme si j'étais un objet. Donc, les questions, elle est bien jolie, la petite, elle parle français, elle s'appelle comment? Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Et quand je refusais donc leurs avances, ce que j'avais, c'était retourne dans ton pays, quoi. C'était ça, voilà.
Ouais. Ça vole pas très haut, tout ça.
Malheureusement, enfin, oui. Mais on m'a dit des choses, mais comme par exemple, pourquoi tu marches avec des chaussures, les Chinois, ils marchent à pieds nus dans les rivières, des choses comme ça. Puis aussi, je me souviens d'une fois où une voiture s'arrêtait à côté de moi, je me promenais seule en rue. Elle a ouvert, la personne a ouvert la porte, la fenêtre, c'était un monsieur, et il m'a dit, monte dans ma voiture, tu prends combien pour une passe? Donc, à cette époque-là, je devais avoir 18 ou 19 ans.
Ouais.
Et je suis partie, j'ai été choquée, j'ai pas compris, encore une fois. J'étais considérée comme une prostituée. Parce qu'il y a un cliché, toutes les Asiatiques sont des prostituées. L'Asiatique est une femme soumise, docile, qui est toujours prête à passer à l'acte sexuel, des choses comme ça. Et j'ai grandi, mon début s'est passé comme ça. Quoi.
Vous n'avez finalement jamais réussi à être juste vous, avoir votre place?
Non, j'ai toujours voulu être... En fait, j'ai toujours voulu être blonde aux yeux bleus. Pendant très longtemps, je voulais être comme les autres. Je me sentais très laide. Je voyais bien que...
tout ce qu'on vous renvoyait était tellement méchant et tellement moche que c'est difficile de se construire une estime de soi dans ces conditions.
Oui, exactement. D'ailleurs, j'acceptais tout ça, en fait. Je pensais même que c'était normal à la fin. C'était banalisé.
Vous n'aviez pas d'amis ? Vous n'avez pas réussi à vous faire une amie pendant cette période-là ?
Si, j'ai eu des amis durant ma secondaire. Je ne sais pas. Je pense que c'est le lycée chez vous.
Oui.
Enfin, vers l'âge de 12 ans, j'ai eu un groupe d'amis.
C'est le collège, chez nous, oui.
Ah, le collège, ok. Donc j'ai eu un groupe d'amis. Maintenant, malheureusement, ils n'étaient pas toujours là pour me défendre. Ils ont pris ma défense quelquefois. Malheureusement, je suis obligée de dire des gros mots pour expliquer ce que j'ai vécu. Donc, par exemple, un garçon à l'école passait tout le temps près de moi et me traitait de petite chatte. Et un jour, une de mes amies l'a traité « Toi, t'as une petite bite. » Enfin, voilà, et puis ça s'est terminé comme ça. Elles m'ont défendue, elles m'ont acceptée telle que j'étais. Où là, j'ai pu être plus moi-même.
Vivre un peu normalement.
Elle n'était pas toujours là.
Mais voilà. Vous n'osiez pas répondre, vous ?
Non. J'ai répondu parfois parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Comme les Katsumi, je les ai entendus je ne sais pas combien de fois. Et un jour, j'ai pété un câble et je me suis retournée vers la personne. Enfin, c'était un homme, quoi, évidemment. Et je lui ai dit, écoute, toi, tu mourras jamais. Continue à regarder tes films. Moi, je pars. Et voilà, il a été... j'ai été méchante avec lui. Je lui ai dit, de toute façon, tu es gros, tu es moche. J'ai dit ce qu'on m'a dit. J'ai utilisé les mêmes armes, en réalité. Je ne sais pas si c'était bien, mais j'en ai eu marre. J'ai fait ça. Cette personne, à la fin, je la croisais souvent en sortie, a fini par m'appeler mademoiselle.
Ah.
Donc pour moi, c'était quelque chose de gagné.
Une petite victoire quand même, ouais. Ouais.
Voilà, une petite victoire qui m'a soulagée. J'étais fière de moi, disons.
Pour une fois, vous aviez osé prendre votre place.
Voilà, exactement.
Ouais. Est-ce que vous avez fait une thérapie ? Est-ce que vous avez été aidée, comme beaucoup d'enfants adoptés, pour justement travailler sur ce problème de rejet ?
Non, pas du tout. En fait, mes parents ne se rendaient pas compte.
Oui, c'est ça. Je crois que là aussi, malheureusement, il y a eu une carence.
Oui.
Ils n'ont pas été assez...
Je ne voulais pas trop parler de ma famille, mais voilà.
D'accord.
C'est quelque chose d'assez délicat, je pense. Donc,
mais en tout cas, on sait
que... je peux dire...
Un enfant adopté a toujours besoin d'être accompagné, même quand il n'y a pas de différence de race. C'est déjà compliqué. Donc, quand en plus il y a ça, c'est vrai que ça aurait été bien que vous soyez suivi par une pédopsie, quoi, qui vous aurait aidé à travailler votre estime de vous, votre confiance, qui vous aurait appris à répondre. Mais bon, ça n'a pas été le cas, tant pis.
Non, ça n'a pas été le cas. Disons que j'ai fait avec et que, comme je vous disais, en réalité, c'était devenu normal de subir comme ça. Voilà.
Ça veut dire qu'un jour, vous avez quand même compris que ça n'était pas normal ?
Il n'y a pas très longtemps, enfin, vers l'âge de 27 ans,
oui.
J'ai commencé à parler de ce que j'ai vécu par rapport au racisme à mon compagnon actuel. Avant, je n'en parlais pas du tout. Je me taisais, je ne disais rien. C'était le silence total.
Vous avez mis un couvercle dessus, quoi.
Oui. Et mon compagnon actuel m'a écouté, donc je lui en ai parlé. Et même lui ne s'était pas rendu compte à quel point le racisme pouvait aller loin. Il savait que ça existait, mais pas à ce point-là. Il a été choqué, d'ailleurs, quand je lui ai raconté un peu mon parcours de vie, quoi.
Mais c'est pour ça que votre témoignage, Myrane, est très important, parce que je pense que les gens qui subissent n'en parlent pas assez. Et que probablement les gens qui leur font subir ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent détruire quelqu'un. Souvent, ils disent, mais c'est rien, c'est une réflexion, c'était juste pour rire. Oui, ok, peut-être, mais le c'était juste pour rire peut faire très très mal, beaucoup plus mal qu'on l'imagine. Et c'est bien que vous le disiez ce soir, c'est bien que tout le monde puisse l'entendre, vraiment. Merci pour ça.
Les paroles blessent. Et d'ailleurs, oui, si je peux inciter des Asiatiques à parler, ce serait merveilleux, quoi.
Et d'autres à se taire.
Et oui, et des personnes qui, justement, ne connaissent pas réellement ce qu'est le racisme pourraient donc comprendre, effectivement, que voilà, ça, c'est du racisme.
Que les mots, c'est ce que je disais en introduction, les mots ont un sens. Et les mots peuvent détruire, casser. Bien plus qu'on l'imagine. Et on le comprend très très bien à travers votre récit. Et donc, quand vous avez commencé à vous ouvrir à votre compagnon, qu'est-ce qui s'est passé en vous ?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience de certaines choses. Ça m'a fait mal sur le moment, parce que pour moi, c'était pas totalement du racisme. Enfin, il y avait des choses qui, pour moi, n'étaient pas du racisme. Comme, par exemple, une fois... je me suis fait agresser, je me suis fait frapper et violer. Enfin, ça, je ne sais pas si c'était du racisme ou pas, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui s'est passé par la suite, j'ai commencé à me poser des questions. Parce qu'en fait, après, j'étais sous le choc, j'étais par terre. Et là, une ambulance est arrivée et deux ambulanciers m'ont aidé à me relever. Ils m'ont mis sur une chaise et ils m'ont sanglé les chevilles et les poignets. Et donc à ce moment-là, ben comme je vous dis, je trouvais ça normal. Et quand j'y réfléchis, je me dis que ce genre de traitement, on le réserve aux personnes agressives.
Mais c'est bizarre.
Alors qu'en réalité,
si vous étiez la victime.
En réalité, j'étais la victime.
Ben oui,
voilà, j'étais
ça.
La victime et j'ai été traitée comme si j'étais dangereuse. Et par la suite, donc je suis arrivée à l'hôpital. Et il m'a fallu du temps pour me remettre à parler parce que je restais sans voix, je n'arrivais plus à parler.
Non, c'est l'état de choc, c'est normal.
Et à un moment, j'expliquais ce qui s'est passé. Donc, on m'avait frappé derrière la tête et qu'après, on m'avait violé. Et là, personne n'est venu m'examiner. Aucun médecin n'est venu. Aucun gynécologue n'est venu. Voilà. Donc,
encore du mépris, quoi.
Normalement. Dans ces cas-là, on doit se faire examiner. Enfin, maintenant, je le sais.
Ouais.
Par la suite, il y a aussi les policiers qui sont arrivés, parce que j'avais dit que je voulais porter plainte. La police est arrivée. Enfin, c'est un peu flou dans ma tête. Donc, je leur ai fait part de cette envie. Et quand je suis rentrée chez moi, quelques jours après, ou peut-être une semaine après, un policier est venu chez moi. Il m'a dit je viens pour la plainte. Il a commencé à me crier dessus, comme quoi il perdait son temps, que j'avais rien à dire et que j'avais pas intérêt à porter plainte. Il est parti. Je suis restée là.
Ça, malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit du racisme, parce que beaucoup de femmes nous le racontent sur cette libre antenne. Beaucoup de femmes ont eu ce qu'on appelle un accueil plus que glacial et des suggestions pour éviter de porter plainte, malheureusement. Une fin de non-recevoir, ça s'appelle. C'est plutôt un racisme anti-femme, je dirais, plutôt que...
Oui, anti-femme,
Ouais, plus souvent. Et donc, si je comprends bien, le fait de vous être ouverte à votre compagnon vous a fait prendre conscience, finalement, que tout ce que vous aviez vécu jusque-là était vraiment, vraiment pas normal et vraiment violent, quoi.
Voilà, c'était pas... Je ne méritais pas, en fait. C'est ça.
Alors,
dans ma tête, je le méritais, mais je ne le méritais pas.
Déjà, c'est commencer à prendre sa place quand on comprend ça.
Oui.
C'est arrêter de reculer.
Et d'ailleurs, D'ailleurs, je me sens beaucoup mieux. Enfin, je vis beaucoup moins de racisme depuis quelques années. Hein. Je pense que j'ai pris une certaine confiance en moi et que les personnes osent moins m'attaquer.
Bien sûr.
Voilà, oui.
Parce que malheureusement, plus on se met en retrait, plus on attire l'œil, finalement. C'est l'inverse.
Oui, oui, exactement.
Vous l'avez compris, ça.
Quand on est seul, isolé, c'est facile d'attaquer.
Et là, vous dégagez probablement une autre énergie, une autre énergie, oui, c'est ça. Et ce qui fait que les gens vous respectent davantage.
Oui, enfin, du moins, ils n'osent plus m'insulter. La première fois que j'étais insultée, je ne me souviens même plus. Enfin, voilà.
Mais vous me parlez de vos enfants, ça veut dire quoi? Que ça recommence avec la génération d'après?
Oui, bien sûr. Donc, je vais vous parler de mon petit garçon qui a aujourd'hui 10 ans.
Votre mari, votre mari est asiatique ou européen?
Européen.
Donc, vos enfants sont des métis?
Voilà, ils sont eurasiens. Mes deux garçons sont très typés asiatiques. Et ma fille, on voit qu'elle est eurasienne.
Ce sont les plus beaux mélanges, moi, je trouve toujours ça.
Je ne vais pas dire le contraire, hein, vu que mes enfants le font. Mais enfin, voilà. Mais enfin, donc, mon petit garçon de 4 ans, lui, n'a pas encore vécu de racisme. On croise les doigts. Donc,
mais alors, justement, est-ce que vous, à l'inverse de vos parents, vous leur en parlez, vous les préparez à ça?
Oui, je leur explique.
Ah.
Je leur explique voilà, ce qu'ils entendent, Shintok, tirer les yeux, des moqueries sur leur physique, c'est du racisme et qu'il faut s'en plaindre. Il faut me le dire, il faut le dire à l'institutrice ou aux surveillants. Et enfin, d'ailleurs, ils s'en sont plaints, mais malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes. C'est pas si facile que ça en réalité, même quand on se plaint.
Alors, ce qu'il faut peut-être leur dire, c'est qu'au-delà d'aller se plaindre, parce qu'on peut ne pas être entendu, il faut qu'ils évitent de le prendre sur eux. Qu'ils se disent, à l'intérieur d'eux, qu'ils se disent « Ok, ce que je viens d'entendre là, c'est pas à moi, je le prends pas. »
Je suis partie du principe où j'ai dit à mon fils « Écoute, ceux-là, ils sont méchants. Et toi, tu vas rester gentil. » Ils disent méchanceté, donc ils
exactement.
Sont méchants, et toi, tu es poli, et voilà.
Ce qui sort de leur bouche à eux leur appartient à eux. Ils ne sont pas obligés de le prendre.
Voilà. Oui. Ah. Maintenant, malheureusement, ça blesse quand même.
Oui, mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils ont la chance de pouvoir en parler avec vous.
Oui, mais ça n'a pas été simple. Hein. Je vais vous parler justement de mon deuxième qui a 10 ans. Qui a commencé à subir du racisme vers l'âge de 5 ans, troisième maternelle. Il ne me l'a pas dit tout de suite. D'abord, il a subi en silence, donc des insultes. On le traitait, beaucoup des élèves de son école le traitaient de sale petit chinois de merde. Il se faisait frapper. Il se faisait coller contre les murs, il se faisait étrangler, des choses comme ça. Il revenait souvent avec des vêtements déchirés ou enfin troués. Et il ne disait rien, je le questionnais, il ne disait rien. Et petit à petit, en fait, je l'ai vu changer. Parce que mon petit garçon, à la base, est quelqu'un de très joyeux, il était extraverti, et il a commencé à être ronchon, à vouloir rester dans son coin, même à la maison, on devait aller vers lui. Et un jour, c'est vers la deuxième primaire, donc il avait 7 ans, il a commencé à me parler de tout ça. Là, on est allé trouver le directeur de l'école qui a dit qu'il fallait s'en plaindre, enfin que mon fils devait s'en plaindre aux surveillants de la récréation.
Ouais.
Et mon fils était content, chouette, je vais pouvoir être défendu.
Mais tout dépend du surveillant en fait, hein.
Voilà, ce qui s'est passé, c'est que le surveillant lui disait qu'il en avait marre de l'entendre se plaindre et qu'il devait partir. Ouais. Donc,
double peine.
Ça a continué. On l'a changé d'école, d'ailleurs.
Ouais.
Ça n'a pas pu continuer comme ça. On l'a changé d'école en cours d'année. Donc, voilà.
Mais c'est terrifiant. J'espérais vraiment que la génération d'après soit différente et j'entends que non.
On y travaille. Hein. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté cette association. C'est pour que les choses changent. Hein.
Ouais.
On essaye.
Je crains que ce soit plus long que ce qu'on espérait.
Ça va prendre du temps, mais le temps qu'il faudra.
Tant que les parents ne sont pas capables d'apprendre ça à leurs enfants tout de suite, la différence, la tolérance,
oui.
Ça continue.
Oui, ça continuera. Donc il y aura toujours, de toute façon, du racisme.
Votre association, donc la LCA, Ligue contre l'Asiaphobie, concrètement, oui. Elle propose quoi comme aide ? Une écoute ?
En fait, c'est une association qui est créée justement pour montrer en Belgique. L'État belge ne reconnaît pas que le racisme anti-asiatique existe. Donc là, nous allons prouver à la Belgique que ça existe bel et bien. Donc on a déjà recueilli des témoignages. Et ce qu'on veut faire, justement, c'est dénoncer ce racisme et informer les gens qu'il est bien réel. Et on veut montrer aussi aux Asiatiques qu'on est là, qu'ils sont soutenus, qu'ils peuvent être entendus, qu'ils peuvent venir vers nous, qu'ils ont une place dans la société, pas en tant qu'Asiatiques, mais en tant que personnes. Voilà, c'est ce qu'on on veut lutter contre cette discrimination et on voudrait faire en sorte que les gens, les Belges et les Asiatiques se comprennent mieux et s'acceptent.
J'irai même au-delà de la Belgique, hein, Myrane.
En France, oui.
Oui.
En France, vous êtes, je pense, beaucoup plus loin qu'en Belgique. Les personnes asiatiques osent. Il y a déjà des mouvements qui sont créés, mais pas chez nous, en fait.
Oui, ça, je sais pas. Je peux pas vous dire exactement là. J'y connais pas grand-chose là-dedans, mais en tout cas, ce que j'entends moi, c'est qu'il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot pour
oui,
ça,
bien sûr,
pour que les mentalités changent et avancent.
Mais il faut un début à tout, je pense. Donc voilà.
Et que les gens comprennent à quel point les mots peuvent blesser bien plus que les gestes, finalement.
Mmh.
Ouais. Merci, Myrane, de votre témoignage.
De rien.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même trouvé votre place dans ce monde ?
Disons que j'ai ma place, je pense... Je suis plus fière de mes origines qu'avant. Je m'accepte. Je ne me trouve pas toujours, pas toujours encore belle, mais j'accepte mes origines. Voilà.
Et je suis sûre que vous l'êtes, pourtant.
Mes origines. C'est ce que mon compagnon dit, mais bon, il n'est pas très subjectif. Hein. Donc voilà.
En tout cas, si je peux permettre juste un dernier conseil. Surveillez bien vos petits, vos enfants, et n'hésitez pas à les faire voir un pédopsie s'il y avait un problème.
Oui, ben ça va, merci.
Qu'ils puissent mettre des mots aussi, eux, là-dessus, et pas forcément que avec vous, parce qu'ils peuvent avoir une pudeur par rapport à vous là-dessus.
Oui, ben on est fort à l'écoute quand même, hein. Ils nous racontent beaucoup de choses.
Ça, j'imagine bien, mais ouais. Ça peut être important si vous sentez que ça dérape ou qu'il y a un problème, que quelqu'un qui soit extérieur, qui n'ait pas d'implication émotionnelle, puisse aussi intervenir.
Oui, bien sûr.
Peut-être, ouais. Peut-être
on se réveille, hein, oui.
Un peu plus tard dans quelques années. Hein.
Oui.
Soyez prudente avec ça. Merci beaucoup de votre témoignage, Myrane.
De rien.
Prenez bien soin de vous.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée.